Salut les boss, c'est Stéphane, bienvenue dans l'épisode numéro 18. Alors aujourd'hui c'est un gros morceau puisqu'on va parler des crypto-monnaies d'État, qu'on appelle aussi les crypto-monnaies de banque centrale ou CBDC. Alors ça va être un long monologue, un long résumé parce que c'est un sujet hyper important. Pour moi c'est même sans doute l'épisode le plus important de tous ceux que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. En fait ça fait 3 ans que je voulais parler des CBDC mais je ne pouvais pas démarrer comme ça de but en blanc. Il fallait que j'amène progressivement le sujet avec d'autres épisodes au préalable. Alors je ne fais pas cet épisode pour faire mon intéressant, j'ai pas envie non plus de me faire bannir des réseaux sociaux, mais je pense simplement que les gens doivent être informés et je pense simplement que c'est un sujet dont on doit pouvoir débattre librement. D'ailleurs c'est un sujet dont on commence à parler beaucoup dans la communauté du Bitcoin, mais par contre au niveau du grand public c'est vrai que malheureusement il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce qui se passe et ce qui vient. Il y a très peu de gens qui comprennent vraiment les véritables enjeux en présence. En fait, pour donner une image, on a eu le Covid, vous voyez, et le Covid c'était un peu comme le boss de fin de niveau dans un jeu vidéo. Et là, ce qui vient avec les CBDC, ça serait carrément le big boss de la fin du jeu, de la fin de la partie. Voilà. Donc, pour les personnes trop politiquement correct, il y aura sans doute des choses un peu choquantes pour vous dans cet épisode, donc ne l'écoutez pas, éventuellement, vous faites comme vous voulez, sinon pour les autres, écoutez ce qui suit, j'espère que ça va vous intéresser. Allez, c'est parti. En France, le gouvernement donne chaque année 3,8 milliards d'euros aux médias audiovisuels publics. Pourquoi ? Principalement pour contrôler l'information, pour contrôler le narratif officiel, donc jusqu'à maintenant, ça fonctionnait plutôt bien, mais depuis quelques années, le gouvernement commence à perdre le monopole de l'information, notamment à cause des réseaux sociaux. Alors, la plupart de ces gens haut placés qui nous dirigent pensent qu'on vit peut-être encore à l'époque du Fordisme, à l'époque du travail à la chaîne, dans un monde plus ou moins uniformisé, où on est tous pareils, mais ça n'est plus le cas, ça marche plus. Dans le monde de la finance, c'est un peu la même situation. Il y a des banques dans chaque grande ville, il y a des banques centrales dans chaque pays, on a des grosses banques, on a aussi Visa, Mastercard, donc on a affaire à des mastodontes à tous les niveaux. Et donc, jusqu'à présent, il y avait des barrières à l'entrée dans le business de la finance qui étaient énormes. Mais tout ça vole en éclats aujourd'hui, aussi bien dans le monde des médias que dans le monde de la finance. Toutes ces méga structures deviennent progressivement obsolètes à cause de ce qu'on appelle la décentralisation et à cause de la technologie. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple avec l'internet. Tu t'installes une appli et c'est fini. Tu peux te passer de ces gros acteurs qui étaient effectivement jusqu'à présent incontournables. Et donc ce temps est bientôt révolu. Ce qui a provoqué tout ce changement depuis quelques années, c'est la technologie. Je l'ai dit, la technologie a toujours changé le monde. Et aujourd'hui, elle change les médias et le Bitcoin change la finance. Mais en même temps, ces gens qui sont aux manettes actuellement, ces gens qui dirigent les grandes banques notamment, sont très puissants et ils veulent rester en place. Et ça se comprend. Donc tous ces gens-là vont nous proposer très prochainement leur solution. Et cette solution, ça sera les CBDC. Le système financier est en faillite, on en a déjà parlé ensemble. Mais on vous présentera tout ça en vous disant que le système se réinvente. En réalité, le but principal des CBDC, ça sera de permettre à ces gens de conserver le système en l'état et de conserver leur pouvoir. Alors, ce qu'on appelle la Central Bank Digital Currency, ne vous y trompez pas, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, certes, on s'envoie déjà de l'argent via le système bancaire, on emprunte auprès des banques, ça se fait la plupart du temps électroniquement, donc pas de souci là-dessus, mais la CBDC c'est différent. La différence vient de la lettre C dans Central Bank. Parce que finalement, actuellement, on a beaucoup de banques qui sont interconnectées les unes aux autres, beaucoup de banquiers qui prennent des décisions dans leurs agences régionales respectives, et il y a des agences régionales partout dans le monde. Mais par définition, cette lettre C de CBDC induit qu'il va y avoir une plus grande centralisation à l'avenir et une plus grande concentration de tout le système bancaire, et ça induit aussi une planification centrale. Donc rien que par le nom, on a déjà une idée générale assez claire qui se dessine. Et quoi qu'on dise à propos des banques, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il y avait tout de même jusqu'à maintenant une certaine diversité dans toutes les banques existantes. On a même aussi probablement tous connu des conseillers bancaires qui étaient sympas, qui connaissaient bien leurs clients, qui étaient proches d'eux et qui étaient capables de se montrer plus ou moins conciliants dans certaines situations. Là, ce qui risque de se passer déjà dans un premier temps, c'est que le nombre de banques devrait continuer à diminuer jusqu'à ce qu'on ait plus qu'une poignée de très grosses banques dites systémiques, c'est-à-dire too big to fail, ou voire carrément jusqu'à ce qu'on ait plus qu'une seule grosse banque, c'est-à-dire la banque centrale, un peu comme ce qu'on a connu à l'époque de l'URSS. En même temps, on voit déjà assez bien sur beaucoup d'aspects que l'UE se transforme progressivement en une sorte d'URSS. Donc, si dans les prochaines années les banques secondaires ont tendance à être de moins en moins nombreuses, vous aurez peut-être un jour votre compte bancaire, pourquoi pas directement à la banque centrale ou éventuellement dans une de ces très grosses banques systémiques restantes. Alors on l'a vu tout récemment d'ailleurs, au début du mois de mai, avec la First Republic Bank qui a fait faillite et qui a basculé toute sa clientèle vers la banque JP Morgan. D'ailleurs, en ce moment, c'est JP Morgan qui rachète tout à chaque fois aux États-Unis. Bon, en même temps, c'est normal. JP Morgan, c'est juste l'une des plus grosses banques du monde. Voilà. Donc évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les grosses banques absorbent les petites et rachètent leurs actifs, ça facilite quelque part la mise en place des CBDC, puisque ça va dans le sens d'une plus grande centralisation avec moins d'acteurs. Ça prépare le terrain, parce que ça sera plus facile pour un gouvernement de mettre en place une CBDC avec 4 ou 5 grandes banques, plutôt qu'avec plusieurs centaines de banques moyennes. Et bien sûr, toutes les banques qu'on pourrait qualifier de crypto-friendly doivent disparaître en priorité. Je le dis ironiquement, mais ça me paraît quelque chose d'évident. Actuellement, on voit que cette concentration bancaire est favorisée par la politique de relèvement des taux de la Fed. Puisque quand les taux sont élevés, ça ralentit l'économie. Les gens empruntent moins facilement et les petites banques se retrouvent en difficulté. Et oui, parce que le souci, c'est que le métier d'une banque, justement son métier principal, c'est de prêter de l'argent. Donc si elles ne peuvent plus prêter de l'argent, il y a un problème. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, pour moi, tout ça pose déjà un premier vrai problème. Si on se dirige vers une économie de planification à la soviétique, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Parce que la centralisation, ça induit que tous les pouvoirs sont concentrés sur très peu de personnes, et donc ça entraîne forcément des pulsions autoritaires à un moment donné. Alors, les banques changeront peut-être leur business model, elles s'orienteront peut-être plus vers une activité de rentier. Ça, c'est pas le c'est pas notre souci principal. Mais déjà, on voit que dans les grandes villes en Suisse, par exemple, ce sont les banques qui possèdent souvent une grosse partie du parc immobilier. On sait qu'aux États-Unis, BlackRock rachète aussi énormément d'immobilier, notamment à New York. Alors, je parle d'immobilier d'habitation parce qu'évidemment, depuis la période Covid, l'immobilier de bureau est sinistré. Et ironiquement, c'est même ça qui fragilise d'ailleurs en partie certaines banques en ce moment. Mais bon, passons. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que ce phénomène se produira aussi sur Paris et dans les grandes villes françaises, évidemment. Bon, et puis évidemment, quand un restaurant ferme ou quand une petite entreprise met la clé sous la porte, la banque est toujours là pour récupérer le local, le bâtiment ou le fonds de commerce. Voilà. Et donc là, j'extrapole un peu, mais vous voyez que par effet de domino, si les banques se mettent à racheter de l'immobilier, ça va aussi avoir des conséquences au niveau des ménages. On va passer d'un pays où les couples possèdent leur maison individuelle à éventuellement un pays où les gens se retrouvent à louer des appartements plus petits, plus chers. On va se retrouver avec de plus en plus de gens qui restent locataires à vie. Vous louez votre appartement, vous louez votre voiture parce que l'automobile, c'est mal, vous le savez, ça pollue, etc. Vous savez, c'est la fameuse phrase, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Alors pour l'instant, si vous vivez à la campagne, ça va. On peut encore se loger à des prix raisonnables. Mais si vous vivez à Paris, bah là, tout le monde sait que les prix des loyers sont inabordables. En gros, si vous avez un salaire moyen aujourd'hui, ne cherchez même pas à vivre dans une grande ville, ça serait complètement stupide. D'autant plus qu'avec Internet et avec le travail à distance, le monde du travail a lui aussi tendance à se décentraliser. Et ça, pour le coup, ça tombe bien, puisque la France a toujours été un pays de village. C'est un pays de clochers, dans l'histoire nationale, c'est toujours comme ça que le pays s'est organisé. Bon, enfin voilà, je m'écarte un peu, mais pour revenir un peu à notre sujet des CBDC, il faut prendre l'image globale et voir ça avec un peu de hauteur. Les banques centrales ont annoncé dès 2020 publiquement qu'elles allaient travailler à la mise en place des CBDC. Je veux dire, c'est pas un sujet complotiste, c'est au contraire quelque chose de bien réel. Christine Lagarde en a parlé. Je veux dire, tout le monde en parle dans les hautes sphères de la finance. C'est un secret de polichinelle. Donc le lancement de leur CBDC, c'est le but, c'est l'objectif principal des banques centrales en ce moment. Et ça va arriver tranquillement, progressivement, étape par étape, sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Bien sûr, il n'y aura pas un référendum sur cette question, rassurez-vous. Mais d'un autre côté, c'est tout de même un gros changement. Pour mettre tout ça en place, c'est quand même compliqué. Déjà, pour y parvenir, le préalable, c'est la mise en place d'une identité numérique. Et comment peut-on introduire la notion d'identité numérique? Je vous pose la question. Il y a certainement plusieurs moyens, mais je pense que la pandémie a beaucoup aidé à faire connaître cette notion d'identité numérique. Et la pandémie a contribué à présenter l'identité numérique comme une nécessité et comme une solution. En effet, je vous pose la question. Comment peut-on vérifier si quelqu'un a été, par exemple, vacciné ou non? Comment peut-on vérifier si quelqu'un a bien son passe sanitaire valide ou non? Comment peut-on savoir si cette personne a le droit de rentrer dans un magasin ou non? Comment peut-on avoir accès à toutes ces informations autrement que grâce à l'identité numérique? Donc, qu'on le veuille ou non, objectivement, on est obligé de reconnaître que le Covid a bien préparé les esprits. Et donc, de fait, la pandémie a été une excellente excuse pour faire accepter aux gens cette notion d'identité numérique. On va pas se refaire tout le film, mais il était quand même évident assez vite que les injections qu'on nous proposait ne ralentissaient pas les contaminations. Et malgré ça, la pression médiatique et la coordination entre les pays occidentaux a été extrêmement forte. Et donc, là, vous commencez peut-être à voir où ça nous mène. Alors, je le redis, moi, je veux choquer personne. J'essaye juste de faire un constat. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à penser en dehors de l'autorité, en dehors de la version officielle. Il y a eu différentes expériences, comme l'expérience de Milgram qui en a fait la démonstration. Donc je ne vais pas essayer de convaincre tout le monde, c'est impossible. Chacun a son propre avis sur la question. Pas de lézard, pas de souci. Mais pour revenir à notre histoire de CBDC, on va s'en tenir aux faits qui sont vérifiables. On constate que la Chine a déjà lancé son crypto yuan sur une partie de la population. On a vu également que fin octobre 2020, le Nigeria avait aussi lancé sa propre crypto monnaie d'État pour les particuliers. Donc on sait qu'en Occident, forcément, ça va suivre. Alors les États-Unis et l'Europe lanceront aussi crypto dollar ou le crypto euro très bientôt, d'ici 2 ans, 3 ans, même peut-être dès cette année. D'ailleurs, il faut savoir que l'État américain, d'une certaine manière, se considère en retard vis-à-vis de la Chine. Et c'est quelque chose qui les inquiète en plus haut lieu, parce que les États-Unis veulent absolument conserver leur place de première puissance mondiale. Alors ces CBDC ne s'appelleront peut-être pas crypto-dollar ou euro numérique. Il y a des noms qui circulent déjà. Aux USA, on parle du FedNow. Au FMI, on parle du Unicoin. Alors on ne sait pas trop, pour l'instant, on verra bien. Mais un beau jour, très bientôt, ces CBDC seront prêtes. À ce moment-là, on va vous présenter ça de façon simpliste. On va vous dire que c'est génial parce que c'est plus pratique. Je vais déjà vous donner un scoop, mais c'est faux, c'est du pipeau. Non, les CBDC, c'est pas un truc cool. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les CBDC entraînent la fin du respect de votre vie privée, puisque toutes vos opérations sont traçables. Vos transactions ne seront plus privées, mis à part éventuellement les toutes petites transactions. Chaque transaction, très probablement, sera archivée à vie dans une blockchain. Et je ne sais pas, mais entre nous, est-ce que c'est vraiment utile que l'IA de la NSA ou que l'IA d'une organisation gouvernementale fouille dans votre historique de transactions? Est-ce qu'on veut d'un État qui nous flique en permanence? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce qu'on ne rentre pas quelque part dans une espèce de techno-fascisme? D'autre part, vous n'avez plus un centime dans votre poche. Avec les CBDC, tout est stocké à la banque, tout appartient à la banque et votre argent est juste mis à votre disposition. On va donc se retrouver avec une monnaie totalement centralisée et l'autorité centrale aura la possibilité de geler vos fonds en un clic. Si elle le souhaite, pour une raison X ou Y, alors je ne vais pas vous faire un dessin, mais par exemple pour une histoire de piquouse, faite ou non, je dis ça au hasard bien sûr, mais ça peut être aussi pour autre chose. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne suis pas viscéralement anti-vax à la base, je suis juste sceptique, comme beaucoup, sur le fait d'obliger les jeunes et les enfants à se piquer avec quelque chose dont l'efficacité est très discutable. Hein. Souvenez-vous qu'au début, tout ça, ça a commencé avec un « lavez-vous les mains avec du gel », hein, et puis on est arrivé à un niveau d'hystérie où tout le monde allait devoir se faire piquer tous les 3 mois. Hein. C'est juste un petit rappel, mais bref, passons. Sinon, autre chose, si jamais vous critiquez bah, par exemple votre président bien-aimé ou un ministre sur les réseaux sociaux, bien là c'est pareil, vous prendrez un risque. Et donc au final, pour n'importe quelle raison qui leur semblera valable, on pourra en un clic arbitrairement vous interdire l'usage de cette crypto-monnaie d'État, comme on pourrait vous bannir de Facebook par exemple. Et d'un coup, vous pouvez vous retrouver totalement désactivé financièrement. On peut aussi prendre l'exemple du convoi de la liberté au Canada. C'est extrêmement intéressant et extrêmement grave à la fois ce qui s'est passé avec les camionneurs canadiens. On a les médias mainstream qui se sont déchaînés sur les truckers en essayant de les faire passer pour des fascistes, des misogynes, des antisémites, je ne sais quoi. Alors que c'était juste des braves gens qui demandaient de manière pacifique à conserver leurs droits, les droits qu'ils avaient tout simplement avant la crise sanitaire. Et donc ce qui s'est passé, vous vous en souvenez sans doute, c'est que le gouvernement canadien a tout simplement gelé les comptes en banque des manifestants sans même l'intervention d'un juge. Ils ont même gelé les cagnottes en ligne qui étaient destinées à soutenir le mouvement social. Et donc on voit bien que le cash est quelque chose d'essentiel à la liberté des individus. Sans cash, on ne peut plus circuler, on ne peut plus rien faire. Ensuite, après ce mouvement des camionneurs canadiens, vous avez eu le début de la guerre en Ukraine. Et on a eu tous ces Russes fortunés qui ont vu leur patrimoine en Europe se faire saisir et qui ont vu leurs cartes bleues et leurs comptes en banque gelés, en France notamment. Imaginez ça, donc vous êtes russe, vous êtes en vacances à l'étranger, vous n'avez agressé personne, vous n'avez rien fait d'illégal, vous pouvez même être francophile quelque part, et d'un coup votre CB est gelé, vous faites comment pour rentrer chez vous? Comme ça, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus acheter à manger, ni faire un plein d'essence. Imaginez un mec comme Roman Abramovich, le célèbre oligarque russe, il a investi des milliards dans le club de foot de Chelsea, et là, le Royaume-Uni et l'UE lui tombent dessus, lui saisissent ses biens, le mec était milliardaire et du jour au lendemain, il ne peut plus payer sa femme de ménage. Donc, avec les CBDC, c'est ça. Si le gouvernement le décide, il pourra littéralement désactiver très facilement tous ceux qui lui posent un problème. Alors, ça pourrait être des gilets jaunes, des complotistes, des non-vaccinés, des Russes, des pro-Trump, des mélanchonistes et je ne sais qui, etc. En fait, ça peut être n'importe qui et ça pourrait être vous. Et ce jour-là, vous ne pourrez même plus vous payer une putain de baguette de pain ou un simple ticket de bus. Moi-même, si j'avais le malheur d'être bloqué, je ne pourrais même plus payer mes factures d'électricité et en fin de compte, je ne pourrais même plus enregistrer cet épisode, par exemple. Donc c'est pour ça, selon moi, qu'on a besoin d'une monnaie neutre pour tout le monde, une monnaie neutre pour limiter les risques face à ce genre de décision autoritaire. Honnêtement, si on en arrive là, je ne pense pas dans ces conditions qu'on puisse encore parler de démocratie et d'état de droit. Voilà, donc c'est toujours dangereux d'une manière générale de confier autant de pouvoir dans les mains de quelques personnes parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens utiliseront un jour ce pouvoir. Et encore une fois, n'allez pas croire que vous ne pourrez pas être pris pour cible, vous aussi un jour. Donc avec tout ça au final, on risquerait de se retrouver progressivement dans un pays où on serait forcé d'écouter un gouvernement et de lui obéir sur tous les sujets parce que forcément les gens auront toujours un peu peur de cette épée de Damoclès qui se tiendra au-dessus de leur tête, vous voyez? Et progressivement, c'est comme ça qu'on finit par se retrouver, je sais pas, dans un pays comme la Corée du Nord. J'exagère un peu, mais franchement, pas tant que ça. Et quand je dis tout ça, on est bien d'accord que je critique les gouvernements, hein. On est d'accord que je critique pas les pays, parce que moi, j'aime mon pays. On a fait de mauvaises choses en France, mais globalement, on a fait aussi beaucoup de bonnes choses. D'autre part, je pense qu'on peut parier à coup sûr que l'euro digital se dévaluera dans le temps exactement comme c'est le cas actuellement avec l'euro. Pourquoi? Parce qu'il sera géré par les mêmes technocrates qu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'une banque centrale a de toute façon pour vocation de gonfler constamment sa masse monétaire sans cesse et indéfiniment dans le temps. Parce que tout simplement, les gouvernements ont tendance à grossir sans cesse et nos pays sont perpétuellement en déficit. Donc le seul moyen de financer tout ça, c'est tôt ou tard de faire marcher la planche à billets. C'est comme ça, les gouvernements veulent toujours exercer plus de contrôle sur la société. Ils grossissent et malheureusement, ils sont généralement bons uniquement dans deux domaines, celui de collecter des taxes et celui de faire des morts dans les guerres. Donc en fait, les CBDC auront non seulement autant de défauts que les monnaies fiat actuelles, qu'elles sont censées remplacer, mais en plus de ça, on peut dire avec certitude qu'elles seront pires. Voilà, donc maintenant, face à ça, on le sait, il y a le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le remède, c'est l'antidote, c'est l'anti-CBDC, qui permet d'effectuer des transactions directes, en peer-to-peer, entre tous les individus, sans permission, sans intermédiaire, et donc sans le besoin de repasser par une grosse structure centrale au milieu de la transaction. Le but initial du Bitcoin, c'était d'exclure justement tous ces intermédiaires dans les transactions, que ce soit les banques ou les États. Mais avec les CBDC, c'est l'inverse. Les CBDC ont pour objectif de mettre l'État au milieu de chaque transaction. Et ça, c'est une différence fondamentale. Alors avec le Bitcoin, vous le savez, tout est décentralisé, ne serait-ce que le minage, puisqu'il est effectué dans un grand nombre d'installations électriques dispersées un peu partout dans le monde. Le Bitcoin est conçu pour les gens comme vous et moi, il est conçu pour tout le monde. Tandis que les CBDC, c'est le contraire. Les CBDC, elles facilitent la vie aux élites. Les élites contrôlent la monnaie et contrôlent les grosses infrastructures, les banques centrales, les planches à billets, etc. Et en fait, dans leur monde centralisé, il y a très peu de gens qui possèdent ces infrastructures. Et d'ailleurs, vous pourrez remarquer que, ironiquement, ces gens veulent pourtant vous rationner. Hein. Ils veulent rationner le peuple, en particulier avec la lutte contre le carbone. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc en réalité, les CBDC, ça signifie beaucoup de ressources et beaucoup de contrôle concentré dans les mains des élites et dans les mains d'institutions technocratiques. Et donc, ça signifie le contraire pour le reste de la population. En gros, pour vous résumer, ça signifie du rationnement. Et dans chaque époque, c'est toujours pareil. Il y a toujours une petite catégorie de personnes qui se considèrent comme étant au-dessus des autres. Alors, ça dure un temps et puis ça se termine. Ça finit par changer parce que l'histoire, c'est toujours une histoire de cycle, finalement. Mais bon, voilà, la situation est complexe. Vous remarquerez que le mot « contrôle » hein, revient souvent dans cet épisode parce que justement, les élites essaient de mettre en place ce reset monétaire. Ils essaient de mettre en place un nouveau système à la place d'un ancien qui leur donnera un plus grand contrôle et en même temps, c'est délicat. C'est délicat, il faut gérer tout ça sans que l'ancien système s'effondre trop brusquement. Il faut gérer tout ça, il faut gérer cet effondrement de manière contrôlée, je dirais. Et donc, oui, je voulais vous redire un mot sur le fameux CO2. Si vous avez été attentif à l'actualité du mois d'avril, vous avez dû voir que l'Union européenne avait voté la taxe carbone, c'est-à-dire que ça rentrera en vigueur d'ici 2026 ou 2027. Vous allez payer 45 euros par tonne de CO2, je crois, mais ça devrait monter à 100 euros par tonne en quelques années. Alors, ça concerne principalement votre chauffage et votre carburant. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée quand même, sachez qu'un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an, d'après leurs calculs. Donc si vous avez une famille de 4 personnes, vous allez payer entre 1500 et 2000 euros par an de taxes carbone. Donc tout ça à partir de 2027. Tout le monde en Europe, les entreprises, les particuliers vont devoir payer cette taxe. Donc on voit très bien comment l'étau se resserre de tous les côtés. Et ce qui est formidable avec une CBDC, c'est qu'elle permet la mise en place d'une économie administrée à la soviétique, avec des planificateurs qui aiment vous dire ce que vous devez faire hein, et comment vous devez gérer votre vie. Et par exemple, quand un produit sera trop rare ou trop cher, on pourra le rationner. C'est ce qu'on pourrait appeler la fin de l'abondance. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase. Donc encore une fois, on sait comment la bureaucratie fonctionne. Elle grossit d'année en année et elle finit par paralyser la société. C'est la nature humaine qui veut ça. Quand tu mets trop de pouvoir dans quelques mains, le pouvoir corrompt de toute façon au fil des années. Donc, en d'autres termes, la CBDC, c'est formidable parce que, comme je le disais, c'est programmable. Bon, ils ne vous diront pas programmable, ils diront conditionnel, mais c'est la même chose. Le conditionnel, au final, c'est un smart contract. Donc, comme j'essaye de vous le dire, avec de l'argent programmable, on pourra tout faire. Donc, on pourra plafonner tel ou tel type d'achat, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourra vous interdire d'acheter plus de 4 kilos de viande sur une semaine, sur un mois, je sais pas. On peut aussi fixer une date d'expiration à l'argent pour vous obliger à dépenser cette somme avant la fin du mois. Dans ce cas précis, vous ne pourriez alors même plus mettre un euro de côté pour les donner plus tard à vos enfants. Tout simplement parce que s'ils le décident, ils vous obligeront à dépenser votre argent uniquement dans les 30 jours, hein, et après cet argent disparaîtra. Ou alors on pourra aussi vous obliger à dépenser votre argent sur un secteur géographique, par exemple de 10 km autour de chez vous. Hein. Et ça d'ailleurs, c'est déjà à l'étude en Thaïlande où ils réfléchissent à permettre uniquement les achats dans un rayon de 4 km dans une limite de 6 mois. Alors sauf l'alcool et les cigarettes, bon ça va, merci, merci à eux. Donc voilà, vous voyez que vous voyez bien que votre argent pourra être bidouillé et analysé en temps réel. Il y a fort à parier que cet outil va être utilisé pour designer tout simplement la société, pour la remodeler d'une certaine façon. Comme je viens de le dire, on pourra conditionner l'utilisation de votre propre argent, donc on pourra très bien vous dire, voilà, vous ne pouvez plus acheter d'essence, vous ne pouvez plus acheter non plus de billets d'avion, car vous avez atteint votre plafond carbone. Donc vous comprenez comment la boucle est bouclée. À la place, on vous dira de manger éventuellement des insectes ou du tofu, je ne sais pas, parce que probablement ça a un bon bilan carbone. Ou alors vous n'aurez peut-être plus droit qu'à 4 ou 5 vols en avion dans votre vie. Voilà, vous irez voir des paysages dans le métaverse à la place, hein, peut-être. Donc tout ça, c'est déjà une petite musique, une petite rengaine qu'on entend un peu partout dans les médias, dans le monde politique. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple personnel, l'autre jour, j'ai reçu une notification de Google. Donc j'ai cliqué pour voir la notif et ça m'a amené sur la page « Mes trajets, mes statistiques » dans mon compte Google. Et sur cette page, ça me disait « En mars, vous avez fait 9359 km en avion ». Alors c'est pas de bol, je revenais de l'île de la Réunion. Et il y avait aussi « Vous avez fait X kilomètres à pied » et vous avez fait X kilomètres en voiture. Donc ça, vous imaginez bien que les États rêvent de pouvoir vous suivre à la trace comme Google ou Apple le font déjà au kilomètre près. Ça, pour eux, c'est vraiment un fantasme. Et encore, avec Google, tu peux toujours, d'une certaine manière, passer en mode avion ou désactiver la géolocalisation. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons, probablement, que le narratif en ce moment est si alarmiste sur tous les sujets. Si vous voulez, quand les gens se trouvent en situation de crise, quand ils ont peur pour leur argent, quand ils ont peur pour le climat, quand ils sont dépendants, eh bien ils attendent que le gouvernement leur propose des solutions. Donc l'État pourra arriver en sauveur et vous dira, voilà, vous avez droit à 500 euros numériques, mais c'est sous telle ou telle condition. Et évidemment, les gens se précipiteront sur cette aubaine, et donc puisqu'on peut tout faire avec de l'argent programmable, ils essaieront de contrôler les dépenses des concitoyens. Alors normalement, je sais pas, on fait ça quand on est parent, on fait ça avec ses enfants, mais on fait pas ça avec les citoyens, enfin il me semble. Enfin bref, ça permettrait aussi sans doute à l'État de proposer un revenu universel à grande échelle, distribué dans un certain cadre bien précis et sous certaines conditions, parce que l'État se présente toujours sous un jour social pour acheter la paix sociale, et effectivement tant que les gens sont dans leur canapé en train de regarder Netflix, ils ne sont pas dans la rue en train de manifester, n'est-ce pas? Donc, le revenu universel, ça serait le fameux droit à la paresse, comme dirait Sandrine Rousseau. Ces gens-là sont de toute façon des malthusiens, comme je l'ai déjà dit souvent, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'on va se retrouver avec des masses de gens inutiles, mis au chômage par l'intelligence artificielle et par la numérisation de la société. Et donc, le revenu universel, assuré par cet état social, garantirait la tranquillité publique et la paix sociale. Parce qu'il faut que le troupeau reste calme. C'est du management. Et d'ailleurs, il faut être réaliste, c'est un peu comme ça que marchent traditionnellement toutes les élections. C'est souvent le candidat qui promet le plus de cadeaux et le plus d'aides financières aux électeurs qui est élu. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est bien joli, mais quand je paye avec ma carte bleue, c'est déjà de l'argent électronique, c'est déjà dématérialisé. Oui, mais non. Au jour d'aujourd'hui, déjà, on a encore la possibilité de payer en argent liquide. Alors certes, le billet de 500 n'est plus produit, ça fait partie des mesures prises contre le cash, mais vous pouvez encore avoir un billet de 100 euros dans la poche. Et avec ça, vous pouvez toujours acheter à manger. On ne sait pas exactement ce que vous achetez, ni à qui, quand vous dépensez ce billet de 100 euros. Donc, vous comprenez bien, c'est ça l'utilité du cash. L'utilité du Bitcoin, c'est pareil, c'est comme le cash, c'est aussi de pouvoir se faire payer instantanément. Et puis bien sûr, et surtout, personne ne peut ni saisir vos bitcoins à distance, ni empêcher votre transaction de s'effectuer. Quand tu utilises le bitcoin, pour payer quelqu'un, personne, absolument personne ne peut t'empêcher d'effectuer cette transaction et personne ne peut t'empêcher de recevoir ce paiement et la vie privée est respectée. C'est important de comprendre tout ça. Tu n'as pas besoin d'une autorisation ni d'une permission. Quand tu achètes une baguette de pain ou un pot de confiture à la supérette du coin, le vendeur n'a pas besoin de connaître ton identité. De toute façon, faut être clair, ça sert à rien. À partir du moment où le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur le produit, sur sa qualité, sur son prix, basta, ça s'arrête là. Connaître l'identité de l'acheteur est inutile. Et d'ailleurs, je citerai Edward Snowden, qui expliquait ça très bien, je le cite. Lorsque tu dis « je m'en fous d'être surveillé car de toute façon, je n'ai rien à cacher », c'est aussi stupide que de dire « je me fiche de la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire ». Vous voyez, c'est la même chose, d'accord? Donc au final, évidemment, j'espère que vous l'avez compris, si demain le cash disparaît totalement, vous comprenez bien que ça change beaucoup de choses. Ça change l'économie, ça change même le contrat social. Voilà, et là, je suis en train de me rendre compte que je vais devoir abréger cet épisode parce que j'ai encore énormément de choses à vous dire, les amis, et ça va être un peu long. Donc je vais essayer de conclure vraiment rapidement. À mon avis, les CBDC, c'est quelque chose qui devrait rester limité à la Chine. Pour moi, c'est pas quelque chose de compatible avec notre culture, c'est pas quelque chose de compatible avec nos pays occidentaux, du moins avec la conception que j'ai personnellement de l'Occident. Et puis, aussi d'un autre côté, je me dis que finalement, si les CBDC sont lancés aux États-Unis et en Europe, finalement, ça constituera la meilleure publicité qui soit pour le Bitcoin, dans le sens où ça va mettre en lumière toutes ces problématiques dont on vient de parler. Actuellement, tous les gens s'en foutent, mais si les CBDC arrivent, il peut y avoir une prise de conscience et au final, les gens voudront reprendre le contrôle de leur argent. Vous savez, c'est le fameux effet Streisand. Ça veut dire que souvent, quand on essaie d'empêcher la divulgation d'une information qu'on aimerait cacher, on obtient le résultat inverse. C'est-à-dire que généralement, c'est comme ça qu'on ouvre la boîte de Pandore et qu'on déclenche involontairement un gros bad buzz. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'avais prévu de vous parler des trois scénarios possibles quant à l'adoption des CBDC. Le scénario pessimiste, réaliste et le scénario optimiste. Mais du coup, je vous en reparlerai dans le prochain épisode. Donc, merci de m'avoir écouté. Alors, avant de vous laisser, je vous invite à regarder dans la description de cet épisode. Je vous ai mis deux nouveaux liens. Le premier lien, c'est un lien vers Relay App. C'est une appli qui vous permettra d'acheter très simplement du Bitcoin sans fournir de KYC. Et le deuxième lien, c'est un lien vers Phoenix Wallet. Alors c'est un wallet qui vous permettra d'échanger des Bitcoins, des Satoshi, via le Lightning Network. C'est-à-dire que grosso modo, avec le Lightning Network, on peut effectuer des échanges avec des frais quasi inexistants. Et au niveau de la rapidité des transactions, c'est quasi instantané. Donc ce sont deux applis que j'ai testées et qui marchent très bien. C'est nickel, donc je vous les recommande. Regardez ça. Voilà, et donc, sur ce, je vous laisse. Salut les amis, salut les boss. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui devrait arriver rapidement. Salut les boss, à plus.